France Info.
Bonjour Pierre Richard.
Bonjour.
Vous êtes entré dans nos vies, dans notre salon, au point d'ailleurs d'intégrer la photo de famille. Oui, les personnages burlesques de vos débuts, incarnés avec délectation, n'ont eu de cesse de nous faire rire, de nous interpeller sur une chose, c'est que vous avez toujours été vous-même, sans fioriture, sans excès, sans sortie de route. Vous êtes distrait, vous ne savez rien, mais vous dites tout, quand même. Vous n'avez aucune difficulté à devenir un jouet, ou à jouer le fugitif, ou à incarner ce grand blond avec cette chaussure noire. Alors même si vous avez mis du temps à vous lancer dans ce métier, avouons qu'il était fait pour vous, et beaucoup de réalisateurs ne s'y sont pas trompés. Je pense à Yves Robert, Gérard Rouy ou encore Georges Lautner ou Claude Zidi. Malgré tous ces succès, une chose vous a toujours particulièrement tenu à cœur, c'est la réalisation. Votre envie et attirance pour ce métier est d'abord venue de votre envie de raconter des histoires, vos histoires. Après Le Distrait, sorti en 70, Les Malheurs d'Alfred en 72 ou encore Je suis timide mais je me soigne en 78 ou On peut toujours rêver en 91, Droite dans le mur 97. Vous revenez à vos 91 printemps à la réalisation avec L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. C'est une comédie. Vous nous racontez l'histoire d'un jeune autiste et d'un vieil homme qui n'aime pas la vie en société, mais plutôt les grands espaces, la nature, les animaux. Il vit d'ailleurs dans une cabane dans le midi de la France avec pour seul compagnon finalement un ours qui vient lui rendre visite. Il s'est échappé d'un cirque itinérant. Vous êtes sans aucun doute au cœur là d'une réalisation particulière, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été autant proche de nous. J'ai l'impression que vous nous tendez la main et vous vous racontez comme jamais.
Je ne sais pas si je tends la main, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est mon film le plus personnel. J'y raconte ce que je ressens, ce que je rêve. Et moi, pour moi, le rêve est essentiel. J'y raconte les gens avec lesquels je vis beaucoup dans l'année, c'est-à-dire les gens du Sud, les Occitans, avec leurs étrangetés, leurs drôleries, leurs cocasseries. D'ailleurs, j'avais qu'à recopier leur dialogue, j'ai pas de mérite. Il s'agit d'un ancien repos de justice, voleur de voiture, qui a fini garagiste. Donc, on se demande d'ailleurs, de l'un à l'autre, bon, il me faisait le goût et milieu des prisons. Il en a fait au moins une douzaine, en me disant, j'aimais bien, Nice, très bien, très bien. Mais Toulouse, j'ai pas aimé la prison. Allez, me faisait le goût et milieu. C'est des gens comme mon boucher, qui était une espèce de fou de Johnny Hallyday, mais c'était son dieu, son idole, c'est plus que ça. Des gens comme ça, je les ai racontés, puis il y a, effectivement, ça c'est une chronique villageoise, mais j'ai eu envie quand même d'aller un peu plus loin, et de raconter moi qui suis dans ce film, pourquoi j'existe, comment j'existe. J'étais un châtelain, je vivais énormément d'argent. J'ai connu ça aussi dans ma vie, pas moi mais mes parents. Et puis qui tout à coup en a eu marre et puis s'en va se planquer dans un petit cabanon en face d'un étang et fréquente ces gens-là et puis surtout fréquente un petit jeune artiste asperger pour qui il s'est pris d'affection et qui évidemment particulièrement intelligent avec une mémoire extraordinaire et en même temps des problèmes de relations avec les autres. Tout ça, ça fait mon film. J'ai gardé mes premières amours aussi quand même parfois sur le burlesque. C'est plus fort que moi. Mais ceci dit, ils ont une signification. C'est pas un burlesque comme ça, uniquement avec des gags drôlatiques. Non, c'est que derrière, il y avait quand même un sens. Mon goût pour la nature, mon goût pour les arbres, ceux qu'on est en train de faire disparaître à tour de bras, et notamment, je connais le problème en Amazonie, mon intérêt pour les animaux, et d'ailleurs, d'où mon ours. Il faut savoir que cet ours a vraiment vécu. C'est un ours qui s'est sauvé d'un parc animalier à 40 km de là, qui a abouti dans ma propriété, mais moi, j'étais pas là, parce que sinon, je l'aurais caché. J'étais en Sibérie. Au moment de me coucher, j'ai regardé la télévision française, et puis tout à coup, je vois cet ours, et je me dis, mais il est chez moi, cet ours. Il était en train de parler avec des gendarmes, avec un jeune homme. Tout ça, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de raconter, de dire, de toucher. Mes relations avec le petit sont particulièrement touchantes et drôles.
Il a cette différence que vous avez toujours eue finalement. J'ai l'impression que vous avez senti très vite, très tôt, très jeune, que vous aviez cette sensibilité et que, au départ, quand on est enfant, on a l'impression que c'est une sorte de poids finalement. On ne sait pas trop comment gérer ses émotions et que cette émotion, c'est aussi ce qui vous a permis d'être l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
On est toujours un peu ce qu'on était pendant les enfants. D'abord, je me suis tapé quand même 7 ans de pension. Donc, d'où mon goût pour l'indépendance, pour la liberté. J'ai horreur des grilles qui vous enferment. Pas forcément des grilles matérielles. On est enfermé même psychologiquement. J'étais un oiseau qu'on a mis en cage. Alors, mon métier m'a permis de voler un peu de temps en temps, d'ouvrir les grilles. Et ce métier m'a donné cette liberté, cette indépendance qui m'a manqué pendant que j'étais jeune.
On va poser le décor, justement, pour mieux comprendre. Vous dépeignez cette famille bourgeoise. Donc là, on touche à l'aristocratie. Hein. Effectivement, ça se passe dans un château. Vous avez vécu dans un château. Ils sont totalement hors sol, hein. Les membres de cette famille-là. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est que de travailler, d'aller en tout cas récupérer, de mériter un salaire, entre guillemets. Vous avez vécu au château de Rougeville, à Saint-Saulve, près de Valenciennes, avec un père douloureusement absent, très cinglant aussi à votre égard. Vous avez eu deux grands-pères. Vous avez eu un grand-père extraordinaire qui, lui, d'un côté, était porteur de rail, il est devenu entrepreneur. Et de l'autre, vous aviez effectivement ce grand-père polytechnicien qui n'a eu de cesse de vouloir vous enfermer. Et c'est le traumatisme que vous avez toujours porté en vous, effectivement, cette pension que vous avez connue pendant plus de 7 ans.
Mais j'en veux pas à ce grand-père aristocrate. Dans son métier, dans ce qu'il est, dans sa jeunesse, il s'est forgé polytechnicien. Je n'en veux pas, il ne peut pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre que tout le monde n'ait pas forcément envie d'être polytechnicien. Alors évidemment, l'autre, c'est un immigré italien qui a traversé tous les Apennins, qui est remonté jusque dans le nord de la France pour trouver du travail. Je me suis habitué à cette espèce de grand écart entre le châtelain où je faisais des baisemains aux dames qui venaient, et mon grand-père italien, avec lequel on allait à la pêche pour manger pendant la guerre.
C'est ça l'amitié, c'est ça les amis, c'est la famille qu'on choisit au fil du temps, justement, celle qui nous correspond le plus.
Et bien sûr, j'ai eu cette chance pendant ma carrière de travailler avec des gens que j'aimais beaucoup et qui m'aimaient beaucoup. J'ai jamais eu de gros problèmes de relationnel avec Carmé, avec Blier, avec Mireille d'Arc. J'ai eu que du bonheur. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui ne sont pas connus et qui me font du bien aussi. Parce que justement, je peux être plus moi-même sans être obligé de me surveiller. Attention à ce que je dis, attention à ce que je fais.
Vous nous livrez vraiment ce qui vous définit dans ce film. C'est très émouvant. Ce qui vous tient à cœur, on ne met pas un oiseau en cage. Effectivement, vous le dites avec votre voix et vous dites que vous avez quitté votre cage depuis bien longtemps. Ça a été dur de quitter votre cage ?
Non. C'est venu, je dirais presque d'une manière naturelle, spontanément. Je suis redescendu à Paris. Ma mère, au contraire, était ravie que je fasse des cours de comédie, ne serait-ce que pour emmerder ceux du Nord. Mais en tout cas, je n'ai pas une victime. D'ailleurs, dans mes films, vous remarquerez que je ne suis jamais la victime. Mes distractions, mes malheurs, les malheurs d'Alfred, mon côté un peu paumé, pas très bien inscrit dans la vie, en fin de compte, je m'en sors toujours. Et je m'en suis tout le temps sorti dans mes films. Et je me suis bien sorti aussi dans la vie.
On se rend compte d'ailleurs à quel point l'absurde, qu'on vous a souvent collé à la peau d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un petit côté Ionesco, quelque part.
Un compliment. Voilà. Que j'ai connu.
Ce film nous montre à quel point l'absurde, c'est la vraie vie, finalement.
Pour moi, c'est un peu la vraie vie, parce que l'autre, elle est terriblement, je ne sais pas le mot, mais...
Triste.
Ça en dit beaucoup plus que le mot que je vais trouver.
C'est en découvrant le film « Un fou s'en va en guerre hein, » et Danny Kaye que vous avez compris, effectivement, que vous étiez fait pour autre chose que l'espèce de cage qu'on vous avait préparée qui était totalement dorée. Vous auriez pu, justement, choisir la facilité. Ça a mis du temps à ce que vous acceptiez ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu que c'est ce qui vous a permis d'être, effectivement, celui que vous êtes aujourd'hui en tant qu'acteur et en tant qu'artiste ?
Je le dois à Yves Robert. Je suis quelqu'un... n'est absolument pas conscient de ce qu'il est, c'est bien moi. Je ne me suis jamais fait d'analyse sur ma personnalité, sur moi. J'ai vécu toujours un petit peu, ou j'ai choisi toujours un peu comme ça, d'une manière instinctive, et sans savoir qui j'étais. Et c'est les propos d'Yves Robert un jour, par hasard, où il m'a dit « tu n'es pas un comédien, d'ailleurs tu n'as aucune place dans le cinéma français ».
Il vous a dit « vous êtes un personnage ».
Il m'a dit « tu es un personnage, fais ton cinéma toi-même ». C'est le plus beau conseil qu'il ait pu me donner, ou qu'on ait pu me donner. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et j'ai été voir un ami qui m'a dit « achète le distrait ». Enfin, tout est parti comme ça. Je ne sais pas, s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais peut-être continué à essayer d'être joué à droite, à gauche, je ne sais pas. Mais il m'a secoué, il m'a dit « toi, ce n'est pas ça, là tu te trompes de chemin ». J'ai enseigné pour le restant de ma vie.
Il y a eu votre grand-père, il y a eu votre mère en soutien. Il y a effectivement Yves Robert. Il vous a d'ailleurs écrit très vite un petit rôle hein, dans Alexandre le Bienheureux avant de vous confier d'autres choses et de vous dire « mais barre-toi de là enfin, ». Il vous a clairement dit ça hein, textuellement. Et effectivement, il y a eu cette prise de conscience. Quand vous avez tourné avec Yves Robert, là, vous avez effectivement, j'ai l'impression, vécu un tournant. Compris que c'était la bonne voie et que vous ne vous étiez pas trompé. Est-ce que ça vous a permis de vous donner confiance en vous, Pierre Richard ?
Confiance, c'est pas lui. Confiance, c'est mon grand-père italien. Donc, qui était mon Dieu. Et quand j'étais tout près de son lit où il allait mourir quelque temps après, mon grand-père a dit à ma mère « Ce sera le seul petit-fils qui va réussir très fort dans la vie. » Je l'imite mal. Cette phrase, elle m'est restée dans la tête. Eh bien, j'ai eu confiance, tranquillement. J'avais 20 ans, pas de problème. J'en avais 25, toujours pas connu, pas de problème. J'en avais 30, 35. Je me dis, m'en fous, ça va venir. Et c'est venu à 40 ans. Moi qui suis un impatient, j'ai été d'une tranquillité absolue, d'une patience absolue. Je me suis dit, je m'en fiche, ça va venir. Et c'est venu.
Vous avez toujours gardé bonne mémoire, Pierre-Richard. Ça aussi, ça fait partie de votre personnalité. Vous avez toujours eu bonne mémoire par rapport à celles et ceux qui se sont trouvés sur votre chemin, qui vous ont fait confiance. Effectivement, il y a ce grand-père italien. Dans le film, vous incarnez cet homme qui est totalement un ermite, qui a du mal à communiquer, qui n'a pas envie d'ailleurs de communiquer. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'être en phase et en tête-à-tête avec la nature, avec ce qu'il touche, avec une possibilité d'être ému en permanence. On comprend d'ailleurs aisément à quel point ses ancêtres, ces personnes qui vous ont fait confiance, font partie de vous. Il a des absences, ce vieil homme. Mais les absences lui permettent de repenser aux absents. On dit souvent que les gens disparaissent définitivement le jour où on arrête de penser à eux. C'est ça aussi la vie, ce que vous vouliez mettre dans ce film.
C'est vrai que les gens qui ont disparu, si on pense à eux, ne disparaissent pas. Moi, j'ai un carnet, comme tout le monde, de téléphone. J'en ai bien un bon tiers qui ne sont plus là, mais je ne veux pas les barrer. J'ai l'impression que je les tuerai deux fois. Alors tous ceux qui ne sont plus là, je ne sais pas, Jean Carmé, Mireille Darc, je les ai, j'ai toujours un numéro. Je me dis, si je le barre puisqu'il n'est plus là, je le tue une autre fois. Tant qu'il est dans mon carnet, il existe.
Est-ce que le fait de voir apparaître cette grand-mère, par exemple, vous fait du bien ? Vous permet de pas de commalter les fêlures, mais de revivre des moments qui ont été très forts ?
Ma grand-mère était très importante pour moi parce qu'elle était d'une indulgence à mon égard et je n'ai jamais vu ça. Et un jour, je l'ai entendu dire, pendant que j'étais en train de chercher des verres dans la cuisine, elle était en train de dire à mon ami, je vais vous dire, monsieur Alain, il a eu une volonté, mais une volonté, c'est bien simple. Il n'a pas voulu avoir son bac, il ne l'a pas eu. Ça, je la vénère jusqu'à la fin de mes jours.
Quand on parle de vous, on dit tout le temps « qu'est-ce qu'il est maladroit ?» Mais en fait, c'est pas vrai ça. On comprend que tout est mesuré, que c'est énormément de travail. Vous êtes un énorme perfectionniste, Pierre Richard. Vous vous dites fainéant, mais en fait, pas du tout.
Oui, je dis toujours « je suis paresseux », mais c'est pas très vrai. Je suis pas paresseux, c'est que si on fait un travail qu'on aime, qu'on adore, j'aime tellement ce métier que ça me coûte pas beaucoup d'efforts. Donc, je ne sais pas parce que je suis pas paresseux. La paresse, c'est autre chose. Mais évidemment que je suis très adroit parce que si vous voulez être maladroit dans un film, il faut être très adroit. Parce que sinon, un vrai maladroit rate sa maladresse. Et on est obligé de refaire le plan puisqu'il est obligé de regarder ce qu'il va faire tomber. Alors que moi, je peux très bien faire tomber tout ce que je veux se regarder. Et c'est là d'où je suis très adroit.
Là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé. C'est dans votre capacité à aller chercher de la sérénité. Avant, vous étiez beaucoup dans le très rapide. Vous croquiez la vie à pleines dents, toujours en tête-à-tête avec elle, mais vous alliez beaucoup plus vite. Là, la rythmique du film, bon, ça reste une partition de musique et vous adorez la musique, donc on n'est pas très étonné. Il y a une rythmique très affirmée, mais vous prenez plus le
C'est
temps.
Mon fils, entre parenthèses. Musicien.
Vous prenez plus le temps. Il y a une rythmique plus apaisée, j'ai l'impression.
Parce que avant, mes films étaient des films d'action, si je puis dire. Pas d'action dans la brutalité, mais ma rapidité, ma vivacité. Maintenant, j'ai un genou qui m'ennuie et je marche lentement. Puisque je marche lentement, j'y ai pris goût à la lenteur. Donc, j'ai même pris goût à la lenteur avec la caméra. J'ai pris même un plaisir à donner du temps au temps. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, je suis dans la barque avec le petit et on entame une conversation. Dans le temps, j'aurais à peine... On aurait mis notre barque à l'arrêt, j'aurais dit oui, alors c'est si, oui, non, mais cela, mais pour ça. Là, maintenant, au contraire, je prends mon temps. On est là, on regarde. Je veux pas même des fois de musique pour laisser simplement le bruit d'un canard qui vole au loin. Après, il me dit une phrase et je réponds pas tout de suite. Et puis, je lui réponds et là-dessus, je lui dis, ne te dépêche pas de me répondre. J'ai pris goût à donner du temps au temps. J'ai gardé ça inconsciemment, mais quand même, des films que j'ai fait avec Jacques Rosier, que j'avais adoré. Et Rosier donnait son temps au temps. Lui, il prenait son temps. Il mettait 2 ans et demi pour monter son film. Je sais pas jusque-là. Mais en tout cas, je veux dire, mes jambes ne bougeant plus très vite, c'est ma tête qui a pris le relais, mais ma tête, elle est beaucoup plus lente que mes jambes. Alors, je prends du temps.
Il y a un côté très poétique, hein, aussi. C'est important pour vous, la poésie. Il y a beaucoup de vers qui sont cités, notamment Les Conquérants, d'ailleurs.
J'ai eu la chance d'être dans ce pays que je connais, qui est tellement beau. J'ai même eu la chance de ne pas le tourner au mois de juillet ou... Il n'y a rien de plus stupide qu'un ciel bleu, bleu, bleu. Et là, j'ai eu la chance de tourner en octobre, novembre. Et donc, j'ai eu cette chance aussi d'avoir un climat différent, un ciel gris, presque, on se croirait en Irlande ou en Écosse, avec un étang, parce que j'habite devant des étangs. L'étang, il est gris comme le ciel. On ne sait plus trop où est le ciel, où est le gris. Et je trouvais ça très beau. Il n'y a rien de tel qu'un coucher de soleil. Mais le coucher de soleil, il est d'autant plus beau qu'il y a des nuages. Et donc, il se cache, puis il réapparaît. Et puis il revient, puis il disparaît totalement. Le mois d'août, il descend, bon, mais il n'est plus là. Et j'ai eu cette chance aussi de tourner en octobre, novembre. Et ça m'a donné l'envie, pour une fois, d'être un peu plus contemplatif.
On comprend mieux qui vous êtes, hein, à travers ce film. Même si c'est vrai que j'ai pour habitude de regarder tout ce qui se passe autour de vous, mais c'est une main tendue. C'est aussi une main tendue envers les autres. C'est-à-dire que si des personnes différentes se regardent, elles vont se retrouver dans ce film avec l'espoir de pouvoir s'en sortir en restant elles-mêmes, en ne baissant pas la tête ni les yeux, et surtout en allant chercher quelque chose qui vous a finalement permis de vous sauver vous-même, c'est l'imagination.
C'est vrai que j'ai dans ce film, j'ai beaucoup de visions. Je me permets toutes les digressions possibles, je me permets tout ce qui me passe par la tête. Je les inscris dans mon film, d'où tout à coup le petit chaperon rouge, d'où tout à coup je suis devant une montagne de sel. Et... En fait, je n'ai pas envie de trop divulguer les surprises que je prépare, que je me permets. Mais c'est vrai, je me permets tout. Après, on aime, on n'aime pas. On me suit pas. Mais en tout cas, j'aurais donné de moi-même. Puis alors, il y a 2-3 choses quand même qui sont importantes pour moi. De plus en plus, mais c'est aussi parce que je suis dans le midi. Cet été, j'ai assisté à 17 000 hectares de forêt qui ont brûlé. J'aime de plus en plus les arbres, j'aime de plus en plus les animaux. Ça m'est venu peut-être depuis une quartaine d'années qui vit justement dans le Midi, en partie. Et j'ai été bouleversé, et je le suis, par la dévastation des forêts, soit par le feu, soit par, comme au Brésil, où on détruit des millions d'hectares de forêts pour planter du tournesol transgénique. Enfin, et ça me concerne de plus en plus.
Vous dites que les arbres vous ont appris l'humilité ?
Oui, c'est ça qui se parle entre eux, les arbres. Hein. J'ai lu les articles. Les arbres se passent entre eux. Et donc, c'est pour ça qu'au début du film, mon autiste, il serre un arbre. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, il me parle. Je crois que les arbres peuvent vous parler à condition que vous les écoutiez.
La normalité en un mot prend-elle le pas sur la normalité en deux mots ?
La normalité, c'est un espèce de quotidien. Je le dis dans mon film, je dis, j'aime bien une maison qui n'est pas rangée. Un objet qui est toujours rangé, on ne fait plus attention. J'aime bien le désordre. Une pièce bien rangée, c'est un cimetière. Alors, ma femme n'est pas toujours d'accord.
Ce qu'il met en exergue définitivement, le discours qu'il faut garder, c'est l'importance de la liberté.
Oui, exactement. Et c'était ce que j'ai essayé d'exprimer pendant tout le film.
Vous l'avez touché du doigt, cette liberté, ou pas ?
Oui, quand même. Avec quelquefois des petits grincements, avec quelquefois des portes qui s'ouvrent mal. Mais je finis toujours, si la porte se ferme, je passe par la fenêtre.
Vous démarrez le film sur une petite précision, disant si jamais des personnes ressemblent à des personnes n'ayant existé, ça peut être fait exprès. D'ailleurs, il y en a encore qui sont en vie. Mais surtout, vous démarrez le film sur un enterrement et vous le terminez sur un enterrement. Et pourtant, ce film célèbre la vie, l'importance de croquer ce qu'il y a au milieu. C'était ça que vous vouliez mettre en avant ?
Ouais, mais je crois que je suis un peu comme Brassens. Brassens, il écrivait des enterrements qui étaient très drôles avec un son d'humour. Et par contre, il avait des chansons sur le mariage qui étaient sombres. Alors, je ne dis rien sur le mariage, mais sur les enterrements, j'ai vécu des enterrements, je m'excuse, mais hilarants.
Vous partez à la fin avec votre sac à dos. Vous mettez en exergue aussi l'hypocrisie des enterrements. Vous dites, quand il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres pour la cacher. Le passé nous rattrape toujours, alors il est temps pour moi de le regarder en face. On ne peut pas regarder derrière soi dans les yeux si on lui tourne le dos. Ça veut dire quoi ?
Je crois que ça m'a fait rire sans chercher à quoi ça ressemblait, mais ça m'a tellement fait rire que je l'ai gardé. Parce que c'est pas le fruit d'une réflexion profonde. C'est le genre de truc que je peux dire sans trop savoir pourquoi. Il ne faut jamais trop me demander pourquoi je dis des choses.
Heureux aujourd'hui ?
Je serais heureux si le film, si les gens viennent le voir. Si je ne veux pas casser la baraque, mais j'aimerais bien que les gens viennent voir mon film. Mais qui n'aime pas qu'on voit son film ? C'est 3 ans de travail.
En attendant, ça m'étonnerait que les gens ne se déplacent pas pour vous. Merci beaucoup, Pierre-Richard, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci
d'avoir joué le jeu. Je sais que vous n'aimez pas les interviews, donc merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Votre film, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, sort aujourd'hui.